Kiosque Magazine.
Bon matin à tout le monde, nous sommes vendredi le 3 juillet, beau soleil à l'extérieur et ça va vous faire du bien aussi nous écouter ce matin, croyez-nous, parce qu'on a des bons sujets pour vous. On parle de loisirs et de culture ce matin à Kiosque Magazine. Vous êtes à l'écoute de Jean-Philippe Vachon et de Charles Roy. Bon matin!
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, oui, merci.
J'ai un peu le nez difficile ce matin, donc si vous m'entendez parler du nez, là, c'est tout à fait normal.
Ben, ça alors, va très bien.
Ça va bien.
Ça fait pas ça changement d'habitude. Ah, non, non. Je suis désolé.
Bon, de quoi tu vas nous parler, Charles, ce matin?
Ben, aujourd'hui, sans rancune, aujourd'hui, je vais vous parler de deux monuments théâtraux de l'été. Je vais vous parler du théâtre Beaumont-Saint-Michel qui fête ses 40 ans et de La Roulotte qui va présenter sa prochaine production Fifi Brin d'Acier.
Ouh.
Également, il sera question du patrimoine mondial en péril. Oui, l'UNESCO appelle à lutter contre l'épuration culturelle menée par l'État islamique, le groupe armé. Et aussi, je vous parle en cirque du spectacle hommage à Beaudommage.
Excellent. Donc, plein de sujets pour nous ce matin. De mon côté, je vous parlerai de Nina Simone. On parlera aussi d'Harry Potter. Alors, pour les fans d'Harry Potter, restez à l'écoute. On parlera aussi du Mondo Carnaval, deuxième édition déjà. Il y a des Québécois qui seront honorés au cours des prochains jours. Et malgré qu'on parle de loisirs et de culture, on va quand même voyager à Waterloo ainsi qu'à Madrid. Restez à l'écoute.
Mais tout d'abord en musique, Jean-François Cliche dans Le Soleil nous apprend que la musique pas si universelle qu'on le croit. Mm-hmm. Ça a été publié le 30 juin dernier. La musique n'est pas un langage aussi universel qu'on le croit après tout. Après avoir analysé des centaines d'œuvres provenant des quatre coins du globe, des chercheurs ont trouvé aucune caractéristique qui serait commune à absolument toutes les musiques du monde. Ni le fait de chanter en faisant correspondre les notes et les syllabes, ni l'usage de notes clairement distinctes les unes des autres, ni même le fait de garder un rythme constant. Et publié lundi cette étude dans les Process de National Academy Science, l'étude donc conclut qu'il n'existe aucun trait qui soit partagé par absolument toutes les musiques du monde. Pour dire, M. Savage, qui était le directeur de l'étude, a même trouvé en Papouasie-Nouvelle-Guinée trois chansons qui n'utilisaient ni un rythme constant, ni des notes distinctes, c'est-à-dire les unes des autres. Cela n'étonne toutefois pas l'ethnomusologue Gérald Côté, présentement professeur invité à l'École musique de l'Université Laval, qui n'a pas participé à l'étude. J'ai voyagé dans une quarantaine de pays justement pour essayer de faire des liens entre les différentes musiques et les sociétés, dit-il, pour voir s'il y a des points communs. Mais des éléments qui viennent changer les choses d'un endroit à l'autre, c'est que les raisons pour lesquelles on joue de la musique ne sont pas les mêmes partout, explique-t-il. Ainsi, illustre M. Côté, si la musique sert surtout ici à danser ou à exprimer des émotions, il existe des cas bien connus en Afrique où les notes jouées sur des tambours forment une sorte de code morse et la musique sert alors littéralement à se parler. Mais si l'équipe de M. Savage n'a rien trouvé qui serait absolument universel à la musique, elle a tout de même identifié plusieurs traits qui s'observent dans une majorité de chansons. Ces caractéristiques presque universelles comprennent notamment l'usage de percussions, un rythme constant, l'embellissement de la voix par un trémolo, par exemple, mais aussi d'autres plus étonnantes qui recèlent peut-être des indices sur les origines de la musique. Par exemple, il semble que dans toutes les cultures, on trouve une tendance à chanter entre les hommes ou entre femmes, mais pas dans des groupes mixtes. En outre, les musiciens et les chanteurs sont presque toujours majoritairement des hommes. Et cela, écrivent M. Savage et son équipe, pourra mener l'eau au moulin d'une théorie voulant que la musique soit une forme de parade nuptiale.
Мчится тройка, скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей, едет, едет к ней, едет к Любушке своей.
Едет к Любушке своей. Едет, едет, едет к ней.
стразоже у моїм щік пісні звонкою долою залив сон в тот же миг. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей, едет, едет к ней, едет к любушке своей.
On commence en force avec Troïka et le cœur de l'armée rouge. Maintenant, on s'en va en cinéma.
On s'en va en cinéma, mais parler de musique. Donc, c'est un film plutôt sur la carrière de Nina Simone. Un article qui s'appelle « Nina Simone, grandeur et misère », c'est de Guillaume Bourgault-Côté. C'est dans le journal Le Devoir. C'est paru donc hier matin, en fait, le 2 juillet. Alors, on comprend mieux d'où venait la profondeur et la fragilité de la voix de Nina Simone à l'écoute de ce documentaire que lui consacre la réalisatrice Lise Garbu, un timbre témoin d'un talent musical exceptionnel, bien sûr, mais aussi révélateur des démons intérieurs qui troublaient cette grande prêtresse du soul. Alors, disponible sur Netflix depuis la semaine passée, le film de Garbu trace le portrait éclairant d'une artiste immense qui portait en elle autant d'ombre que de lumière. Pour situer la carrière de Nina Simone, il faut comprendre sa vie personnelle et les raisons de son engagement social et de ce qui en a fait finalement une icône du Black Power. En ce sens, le film What Happened, Miss Simone navigue avec équilibre entre la scène et l'arrière-scène. Le regard est pénétrant et même instructif. Plusieurs intimes de Nina Simone, qui est décédée à l'âge de 70 ans en 2003, ont contribué par des entrevues étoffées. Son ex-mari, Andrew Stroud, sa fille Lisa Simone, son ancien guitariste et ami Al Shankman sont notamment de la partie. Leurs témoignages abordent tous, les qualités de Simone, comme les conséquences et ses sautes d'humeur, évidemment, les accès de rage et et les comportements erratiques également. La chanteuse jazz apprendra bien tardivement qu'elle était bipolaire et maniaco-dépressive. Et malheureusement, le médicament qui pouvait la soigner avait l'effet pervers de diminuer sa motricité. Alors le film de Garbu est un remarquable travail de recherche pour offrir quantité d'archives rares sur la chanteuse en spectacle, mais aussi en entrevue. Des extraits de son journal intime ponctuent aussi le récit, exposant crûment le poids de la solitude et de la souffrance ressentie par l'artiste. Son interprétation d'ailleurs de la pièce Stars à Montreux en 1976 est simplement troublante. C'est comme ça qu'on en parle ce matin. Le cœur ouvert, le vibrato torturé. La question raciale américaine se trouve bien sûr aussi au cœur du documentaire qui sort dans la foulée de la tuerie de Charleston. Il n'aurait de toute façon pu être autrement, pour parler honnêtement, de l'interprète de Mississippi Goddamn ou To Be a Young, Gifted and Black, militante passionnée et en réelle colère face aux injustices vécues par les Noirs. Elle n'a jamais digéré d'avoir été empêchée de devenir une concertiste classique. La société américaine n'est qu'un cancer et je veux exposer sa maladie. C'est ce qu'elle avait dit elle-même à un moment et ce témoignage se retrouve dans le film. Cet engagement, de même que ses problèmes de santé mentale, lui coûtera d'ailleurs plusieurs années de carrière, on l'apprend dans le documentaire, avant qu'elle connaisse une résurgence inespérée à la fin des années 80. Mais malheureusement, il fut aussi un moteur essentiel de son œuvre, cette espèce de rage intérieure qu'elle avait. Cares for me.
care for. Tone, please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares.
My Baby Just Care For Me, c'est Nina Simone justement qu'on vient d'écouter. Et on s'en va parler de théâtre avec le Théâtre Beaumont-Saint-Michel. 40 ans déjà.
Exactement, oui. C'est un théâtre qui divertit depuis 40 ans. Ce sont les mots d'Éric Moreau dans Le Soleil, publié le 19 juin dernier. Eh bien, c'est en janvier 1973 que les fondateurs ont mis sur pied ce théâtre, soit Jean Duceppe, Lionel Villeneuve et Yves Létourneau. Et depuis, le Beaumont-Saint-Michel est un lieu riche d'histoire pour la dramaturgie québécoise. Une page entière de ce journal ne suffirait pas à dresser la liste des grands acteurs qui se sont montés sur les planches. Certains, pendant plusieurs années, comme Normand Chouinard ou Daniel Proulx. Au fil du temps, Yvon Dufour et Pierre Dufresne, malheureusement décédés, furent même brièvement propriétaires. Cette année, Nathalie Mallette, qui est une des deux têtes d'affiche de la prochaine pièce « La nuit sera chaude », soulève l'hypothèse qu'il y a peut-être eu un théâtre de moindre qualité, qu'il en a échaudé plus d'un. « Le paysage s'est transformé », avoue-t-elle. Mais il y a du bon théâtre d'été qui pourrait être intégré dans des programmations régulières, plaide-t-elle, en citant « Femme de rêve » dans laquelle elle a joué, ou encore « Ténor recherché » ou « Le prénom » dans la mise en scène de Serge Denoncourt. « J'y ai passé une soirée formidable », avoue-t-elle. Beaumont-Saint-Michel jouit d'un avantage non négociable, sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent. Situé en pleine campagne dans un site enchanteur à un jet-pierre de Québec, le théâtre s'est créé une fidèle clientèle et une solide réputation dans le milieu. Cette année, la pièce qui sera à l'affiche, qui s'appelle, attendez, je vais le retrouver, oui, « La nuit sera chaude », c'est une pièce écrite par Michel Poirier, et c'est en fait une adaptation québécoise, mais elle conserve sa signature « Balasco », qui est, oui, en fait, le texte original, c'est Balasco, c'est pas Michel Poirier, lui, c'est l'adaptateur et le metteur en scène. Et dans le fond, vous pourrez voir l'immense comédienne Balasco, qui a notamment fait partie de la distribution « Le Père Noël est une ordure » en 82. Cette pièce au phénomène actif va bouleverser la vie... excusez-moi, j'essaie de paraphraser la phrase, mais ça marche pas. Je vais complètement me fier au texte. Cette bombe au phénomène active va bouleverser la vie de Dina, un peintre à laquelle le spectateur s'identifie. C'est la plus droite et la plus honnête, même si elle a sa névrose. C'est celle à qui les choses arrivent, un feu roulant. C'est chez elle que ces coquerelles débarquent, qui sont tous plus menteurs les uns que les autres. Monique, elle, est en réaction. Alors, c'est pour vous donner une idée de la pièce qui va être jouée du 19 juin au 15 août au Théâtre Beaumont-Saint-Michel. Ça s'appelle « La nuit sera chaude ». On reste en théâtre?
On reste en théâtre et on va aussi naviguer un petit peu dans la littérature parce qu'on parle d'Harry Potter et je crois qu'il y a bien des gens qui sont fans d'Harry Potter, moi le premier d'ailleurs. Et c'est des aspects inédits de l'histoire d'Harry Potter qui sera maintenant transposé au théâtre. Ça a été annoncé le 26 juin dernier. C'est le journal La Presse, dans le fond, qui en a fait un article. C'est l'agence de presse canadienne qui a donc publié cet article-là. C'est une pièce de théâtre, en fait, qui va raconter des aspects inédits de l'histoire d'Harry Potter qui sera jouée à partir de l'année prochaine à Londres. C'est ce qu'a annoncé d'ailleurs la romancière britannique J.K. Rowling, auteure de la saga à succès. Elle a écrit simplement « Je me réjouis de vous confirmer aujourd'hui qu'une nouvelle nouvelle pièce intitulée Harry Potter et l'enfant maudit sera présentée l'année prochaine à Londres. C'est sur son compte Twitter qu'elle a inscrit ça. Ce sera une nouvelle histoire, fruit d'une collaboration entre le scénariste Jack Thorne, le metteur en scène John Tiffany et moi-même. Sans révéler le contenu de la pièce, bien sûr, J.K. Rowling explique qu'elle racontera une facette encore jamais dévoilée de l'histoire d'Harry Potter. Alors, je ne veux pas trop en dire, c'est ce qu'elle a encore une fois dit, pour ne pas gâcher ce que je sais être un cadeau précieux pour les fans, mais je peux dire que ce n'est pas un préquel, alors c'est vraiment une histoire qui va se produire après les 7 derniers livres qu'on a déjà connus. Alors, le quotidien ajoute aussi que la pièce sera jouée au Palace à West End, le quartier des théâtres à Londres. La romancière multimillionnaire avait publié fin 2014 12 nouvelles inédites replongeant dans l'univers du jeune magicien sur le site web Pottermore, un site dédié à l'univers de la saga. Elle avait également publié en juillet un essai dans lequel le personnage principal et sa bande d'amis revenaient à Poudlard, l'école des sorciers, à l'occasion d'un tournoi mondial de Quidditch, alors le sport qui se jouait sur des balais volants dans l'univers d'Harry Potter. C'est alors la première fois depuis l'apparition du 7e mes derniers tomes de la saga en 2007 que J.K. Rowling ressuscitait son héros. Et Harry Potter, qui est l'un des plus grands succès planétaires de l'édition, avec plus de 450 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde, les adaptations cinématographiques ont elles aussi battu tous les records avec plus de 7 milliards de dollars de recettes. C'était une franchise très, très lucrative. Mm-hmm. Et il y a aussi une nouvelle trilogie de films qui avait été annoncée il y a quelques temps déjà. Laissez-moi retrouver l'article en question. C'est basé sur un livre qui était un livre inspiré de l'univers d'Harry Potter qui s'appelait « Les animaux fantastiques, Wild Beasts and Where to Find Them ». Et il y aura une trilogie de films qui débutera d'ailleurs en 2016. 3 films qui seront donc lancés en 2016, en 2018 et en 2020. Alors, on peut dire que pour tous les fans d'Harry Potter, l'univers ne fait que grandir. Et avec la pièce de théâtre qui sera adaptée à Londres, j'ai quand même l'impression que ça pourrait se rendre jusqu'à Montréal dans les années futures. On sait jamais. Thank you.
Toujours pour plaire aux enfants et à toute la famille, en fait, Fifi Brindacy arrive à Montréal. C'est le titre d'un article du Devoir que je vais vous lire, écrit par Caroline Montpetit, publié le 30 juin dernier. Elle revient en chair et en os s'amuser les enfants dans les parcs de Montréal. C'est le personnage de Fifi Brindacy, cette petite fille d'une force herculéenne, natrousse, dressée dans les airs, qui vit seule dans une grande maison. 60 ans après sa création, Fifi sort de l'oubli pour prendre l'affiche de La Roulotte, ce théâtre ambulant pour les enfants qui parcourt chaque été les parcs de la ville de Montréal. La première avait lieu mardi soir au Parc La Fontaine. Et c'est Annie Ranger qui signe la mise en scène de cette pièce et qui a eu l'idée de mettre Fifi au goût du jour. Le personnage de Fifi Brindacy a vu le jour en 1945 dans un roman pour enfants de la Suédoise Astrid Lindgren. Elle s'appelait alors Pippi Långstrump, qui voulait dire en suédois Pippi longue chaussette. Dans l'histoire, elle vit seule dans la ville de Drôle de Repos parce que sa mère est décédée et que son père marin a disparu dans une tempête. Les quatre premiers romans ont été adaptés pour la télévision et ont aussi été transformés en bande dessinée. Les dernières années, La Roulotte avait surtout mis en scène des contes et je trouvais qu'on avait un peu fait le tour, explique Annie Ranger. Je cherchais quelque chose de plus contemporain. Fifi fait la rencontre de ses deux voisins, Tommy et Annika, des petits soumis à des parents exigeants et sévères. Les jeunes sont très impressionnés par la liberté de leurs voisines. À l'époque où le roman a été écrit, on sort de la guerre et tout était possible. La liberté, l'égalité homme-femme, rencontre Annie Ranger. Mais elle ajoute que le propos de Fifi Brindacy est encore plus pertinent aujourd'hui, à une époque où les activités des enfants sont souvent réglées au quart de tour. Ce sont les diplômés du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et de l'École nationale de théâtre du Canada qui jouent et produisent la pièce. La Roulotte profitera de l'été pour rendre hommage à Paul Buissonneau, décédé plus tôt cette année. C'est celui qui a créé le Théâtre de la Roulotte en 1953, en faisant le premier théâtre pour enfants du Québec. La pièce familiale Fifi Brindacy se jouera à 49 reprises dans les environs, autant de parcs de Montréal tout au long de l'été.
Ça va maintenant du côté de Québec avec la deuxième édition du Mondo Carnaval. Et c'est dans le journal Voir qu'on en parle. Ça a été publié hier directement sur leur site web, en fait. Je ne sais pas si ce sera dans la prochaine édition papier. J'ose espérer que oui, mais en même temps, c'est en fin de semaine, donc peut-être pas, mais bon. Mais là, on verra. Alors, c'est Mondo Carnaval, une seconde édition pour célébrer la richesse et la multiplicité des cultures. Alors, c'est les 4 et 5 juillet, que se tiendra donc cette deuxième édition au lieu historique national quartier Brébeuf. Il y a 400 artistes en provenance de 30 pays qui seront réunis sur place pour offrir plus de 40 spectacles. L'animatrice et chanteuse Marie-Ème et le percussionniste Luc Boivin seront les porte-parole de cette nouvelle édition, en plus d'offrir des prestations lors du festival. Festival de culture du monde à saveur carnavalesque ayant pour mission de faire rayonner la diversité culturelle de Québec par la danse, la musique, les autres arts et la cuisine aussi. Mondo Carnaval permet au public de découvrir les pays qui sont représentés dans la ville de Québec par le biais de la culture. Le Brésil, la Chine, le Cameroun, la Colombie, l'Espagne, le Pérou et la Martinique sont quelques-uns des pays représentés cette année. Alors Mondo Carnaval, qui compte des prestations artistiques allant de la danse aux arts du cirque, en passant par l'animation et même par le sport également, une programmation riche et variée est offerte au grand public de midi jusqu'au soir, donc pour demain et dimanche. Un tournoi de soccer amical au terrain du centre Louis-Joliette, le marché du monde aux multiples saveurs, comprenant plusieurs kiosques de restaurateurs des quatre coins du monde et offrant la possibilité de déguster des mets traditionnels. Il y a aussi le chapiteau des cultures, exposant les cultures par le biais des associations qui participent à l'événement. Et il y a aussi bien d'autres activités que vous trouverez d'ailleurs sur le site web mondocarnaval.com. De plus, le festival propose de défiler le défilé carnavalesque. C'est le seul défilé estival de Québec, d'ailleurs, qui s'étendra sur les rues de Lespinay et Cadillac le samedi 4 juillet à 16h. Les 20 pays participants seront mis à l'honneur dans les rues de Limoilou par deux chars allégoriques du Carnaval de Québec et un char des fêtes de la Nouvelle-France également. Le tout agrémenté de danse, de percussion et d'autres formes d'art témoignant des traditions et des cultures allant du Panama à Madagascar, de l'Allemagne à la Roumanie et aussi d'ailleurs. En musique, les artistes d'ici et d'ailleurs animeront la scène du Mondo Carnaval, Samito, couronné révélation Radio-Canada pour 2015-2016, Neto Youth et My Idenside également, un jeune groupe émergent originaire de Québec, seront aussi de la partie. Le R, artiste franco-ontarien, il y a aussi Joaquin Diaz, maître du merengue et habitué des francophonies de Montréal, et Stella Gonis, figure publique la plus visible de la musique en terre martiniquaise, prendront aussi part à cette édition, de même que les porte-paroles, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Mariem et Luc Boivin. Alors, si vous voulez aller explorer différentes cultures, c'est à Québec que ça se passe en fin de semaine.
Des nouvelles de Joni Mitchell, on sait qu'elle était, qu'elle est malade et la légende du folk, Joni Mitchell devrait complètement se remettre d'une rupture d'anévrisme en mars. Et contrairement au dire d'un proche, elle parle, a indiqué Lelsie Morris, c'est la curatrice de la chanteuse de 71 ans. Elle promet qu'elle ne marche pas encore, mais qu'elle le fera dans un avenir proche.
Le célèbre jeu de plateau sert d'inspiration à Lionsgate pour un nouveau long-métrage et je parle ici du jeu Monopoly. Alors, il y aura un film basé sur ce jeu pour monter un projet. Le studio fait appel à Andrew Niccol, le scénariste de Le Show Truman, un film des années 90. Alors, le film Monopoly qui ne consiste pas à retracer l'histoire du jeu de société, mais bien à broder une histoire autour d'un jeune homme de Baltic Avenue, donc c'est une des moins chères du plateau, qui met tout un œuvre pour s'enrichir durant ce film-là. Alors, c'est à suivre, évidemment, les studios Hasbro ont déjà développé le film de bataille navale Battleship en 2012. C'était pas nécessairement un franc succès. Reste à voir si Monopoly saura conquérir le marché du cinéma.
Et avant de vous quitter pour la pause, de retour pour une 33e année, l'activité Livre dans la rue fait redécouvrir aux jeunes de 4 à 12 ans, dans une ambiance de détente et de jeu, le plaisir de la lecture aux côtés d'animateurs professionnels et participe principalement dans les parcs et les cours de Hochelaga-Maisonneuve. Pour plus d'informations, c'est jusqu'au 13 août. L'adresse, c'est bibliomontréal.com. On est de retour dans quelques petites minutes.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et on s'en va maintenant parler de l'Ordre du Canada. Vous êtes toujours avec vos animateurs Charles et Jean-Philippe. Plusieurs Québécois qui seront honorés. Et ça, c'est le journal Le Devoir qui m'en a appris la nouvelle. Et je vous en apprendrai la nouvelle. Alors, transmission des connaissances ici. Alors, ça a été publié hier, le 2 juillet. C'est donc par la presse canadienne. Plusieurs Québécois qui figurent parmi les nouvelles nominations à l'Ordre du Canada. Une annonce qui coïncide évidemment avec la fête du Canada qui était mercredi dernier. Parmi ceux-ci, on retrouve la juge Louise Otis, l'explorateur Daniel Bertolino, l'ancienne ministre Monet, Jérôme Forget, le chanteur populaire Michel Louvain et le caricaturiste Serge Chapelot. Traditionnellement, ces nouvelles nominations sont annoncées deux fois par année, soit le 1er juillet et autour du jour de l'an. Le gouverneur général David Johnston a donc annoncé 100 nouvelles nominations, soit 2 compagnons, 11 officiers et 87 membres de l'Ordre du Canada. Elles font suite à des recommandations en ce sens du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Alors, la juge Louise Otis de la Cour d'appel du Québec sera faite officière de l'Ordre du Canada, voilà. Elle est ainsi honorée pour sa contribution au développement de l'administration de la justice au Canada et pour avoir instauré des systèmes de médiation judiciaire. Parmi ceux qui deviendront membres de l'Ordre du Canada aussi, on retrouve Michel Fortin, qui est honoré pour sa contribution à la vitalité de la télévision francophone et éducative, surtout notamment à la direction de Télé-Québec. On retrouve aussi la danseuse et chorégraphe Ginette Lorrain pour ses réalisations en danse contemporaine, la chanteuse d'opéra Marie-Nicole Lemieux et Nathalie Bondy pour sa contribution au rayonnement de la culture et des arts en tant que muséologue. Les nouveaux membres recevront leur insigne de l'Ordre du Canada à une date ultérieure, lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall. On n'a pas la date encore pour cette cérémonie-là. En général, il y a 3 cérémonies d'investiture par année. C'est ce qu'on précise également au bureau du secrétaire du gouverneur général dans l'article du journal Le Devoir. Et l'Ordre du Canada, qui a été institué, je vous le rappelle, lors du centenaire du pays en 1967, il vise à reconnaître des réalisations exceptionnelles, un dévouement envers la communauté ou une contribution spéciale. Il y a déjà quelques 6 000 personnes qui ont été nommées au cours des 45 dernières années. dernières années. Et comme on le sait aussi, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année, près du jour de l'an. C'est quand même intéressant de voir ça. Michel Louvain qui connaît une très belle année. Et en plus de cette reconnaissance-là, ça fait juste ajouter à la longue liste de prix qu'il a déjà.
Nous sommes allongés sur l'herbe de l'été. Il est tard, on entend chanter des amoureux et des oiseaux. On entend chuchoter le vent dans la campagne. On entend chanter la montagne.
J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux.
Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur que ces yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux, que ta main qui joue avec ma main. Je ne sais rien de toi,
tu ne sais rien de moi.
Nous ne sommes que deux vagabonds, toi, fille des bois,
et vous, mauvais garçon.
Ta robe est déchirée,
je n'ai plus de maison,
je n'ai plus que la belle saison, et ta main dans ma main qui joue avec mes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour tendre
et mystérieux.
Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur que ces yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux, que ta main qui joue avec ma main, que ta main qui joue avec ma main.
Le duo Ariane Moffat et Michel Louvain vous donnait « J'ai ta main », une chanson de Charles Trenet. Maintenant, je vais vous parler d'un article un peu moins rose, un article paru dans Le Devoir qui s'intitule « L'UNESCO appelle à lutter contre l'épuration culturelle menée par l'État islamique ». C'est paru le 2 juillet par l'agence France Presse. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a appelé mercredi à Londres à lutter contre la stratégie d'épuration culturelle menée par les extrémistes de l'organisation État islamique et à faire de la culture un oubli de lutte contre eux. Les destructions du patrimoine par les extrémistes ne sont pas des dommages collatéraux. Les extrémistes ciblent systématiquement le patrimoine pour frapper le cœur et les racines des sociétés, a estimé Mme Bokova lors d'une conférence à l'Institut Chatham House, voyant là une stratégie d'épuration culturelle. L'UNESCO a ouvert dimanche à Bonn la 39e session de son comité du patrimoine mondial pour examiner, d'ici le 8 juillet, une trentaine de candidatures à l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Mercredi, l'UNESCO a classé le site archéologique d'Atra, patrimoine en péril. La culture, une victime. Plusieurs sites archéologiques ont été pris pour cible par des djihadistes de l'État islamique. Ils ont récemment miné la célèbre cité antique de Palmyre, faisant craindre un désastre pour ce site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. La culture a toujours été victime de la guerre, Mais ce que nous voyons aujourd'hui est sans précédent, par son ampleur et sa nature. Cela requiert une nouvelle approche, des nouvelles politiques et un nouveau type de coopération au sein de la communauté internationale, a plaidé la directrice générale de l'UNESCO. Je crois que la prise de conscience, le « hard power », ne serait pas suffisante pour vaincre l'extrémisme violent qui gagne du terrain. Nous avons aussi besoin de « soft power », a-t-elle ajouté, soulignant que la culture devait faire partie de notre réponse à l'extrémisme violent. L'UNESCO a lancé une campagne intitulée « Unit for Heritage » visant à défendre le patrimoine menacé par les extrémistes, mais aussi à contrer leur propagande. Et dans la même ordre d'idées, la minière chinoise MCC fera pourtant la même chose en toute légalité sur le sol afghan, et ce, dans l'indifférence générale. Avec le documentaire « Saving Me Aynak », le réalisateur Brent E. Hoffman attire l'attention sur le sort oublié des Me Aynak, une cité bouddhiste aussi vaste que le Machu Picchu et construite pour son plus grand malheur sur un gisement de cuivre d'une valeur de 1000 milliards de dollars. Pris entre les intérêts économiques énormes, des autorités complaisantes et les menaces des talibans, les archéologues sont engagés dans une course contre la montre pour sauver 5000 ans d'histoire. MCC doit raser le site d'ici la fin 2015. Si vous voulez voir ce documentaire, il est diffusé gratuitement pour un temps limité sur aljazeera.com.
Dans un ton un peu plus léger maintenant, on s'en va du côté de Waterloo, en fait, dans un article de La Voix de l'Est, c'est écrit par Isabelle Autier. Waterloo, il fera chaud au centre-ville, ça a été publié le 2 juillet dernier. On se tient beaucoup dans la période du 2 juillet, je trouve, aujourd'hui.
Oui, c'est
vrai. Tout se passait hier, il n'y avait rien d'autre dans la semaine. Alors, les mercredis chauds sont de retour cet été à Waterloo. Depuis 4 ans, Tourisme Waterloo fait place à une brochette d'artistes pour animer la place du centenaire en plein cœur du centre-ville. C'est la chanteuse Vanessa Borduas qui a ouvert le bal, d'ailleurs, cette semaine, et plusieurs autres artistes lui succéderont chaque semaine, à l'exception du 29 juillet, et ça, c'est jusqu'au 26 août. La directrice de Tourisme Waterloo, Stéphanie Morin, souligne que de nouveaux artistes sont au programme cette année, avec pour résultat une programmation variée et très entraînante. Le 8 juillet, le trio Waterlois, les Sans-Arrêt, occupera le pavillon du parc de la rue Foster, suivi de Roger Quirion et ses invités, alors que ce soit des chanteurs et des musiciens. Le 15 juillet, les Bérets Swingants et leur jazz français prendront la relève le 22 juillet avant de laisser place au groupe rock de Waterloo, Wildfire, le 5 août prochain. Le 12 août, c'est la chanteuse et ancienne participante à La Voix, Mitziza, qui réchauffera le public. Les élèves de l'école de musique José Fortin animeront pour eux la scène, donc le 19 août prochain. Pardonnez-moi la prononciation d'un nom de famille qui commence par W, présentera le spectacle final du 26 août. Ce sera d'ailleurs un très bon show de clôture, semble-t-il, selon Mme Morin. Piano-voix qui devrait bouger énormément aussi. Et chaque mercredi, près d'une centaine de spectateurs, parfois plus, parfois moins, selon les artistes, s'installeront à la place du centenaire pour la soirée. Ça permet de sortir de la maison, de prendre l'air, et les gens apportent leurs chaises ou leurs couvertures et prennent une crème glacée. C'est très convivial comme ambiance et c'est très relax également. Ce sont des concerts gratuits qui débutent à 19h, donc tous les spectacles comptent un entraque assuré par la jeune relève locale. Et lorsque la météo n'est pas coopérative, l'activité se déplace simplement dans les locaux de la Légion royale canadienne au 77 rue Lewis à Waterloo. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, il faut aller sur le site web de La Voix de l'Est, un article de Isabelle Autier.
Et Myriam Lortie, dans Le Nouvelliste, nous parle, elle, du spectacle Le Monde Fou. Les artistes font leur entrée à l'amphithéâtre. Ça a été publié le 29 juin dernier. À Trois-Rivières, c'est lundi après-midi que les 25 artistes du Cirque du Soleil prenaient part au premier spectacle de l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Ils ont visité les lieux où se produiront du 15 juillet au 15 août le spectacle Le Monde est Fou. Alors que l'équipe technique a pris possession de l'endroit il y a 2 semaines, l'arrivée des artistes du spectacle, inspirée de l'œuvre de Beaudommage, marque le début du dernier droit en vue du premier spectacle. Bien qu'originaire de la Mauricie, le coach et le concepteur des numéros acrobatiques Jonathan Brochu n'a pas eu la chance de voir l'emplacement avant lundi. C'est énorme, gigantesque. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir habiter la place. Il se disait heureux de revenir dans son coin de pays, d'autant plus que le travail en cirque se fait rarement au Québec. François Pruneau, originaire de Trois-Rivières, était également heureux de passer l'été à la maison. Je suis ici chez moi. Je connaissais les lieux, mais je ne l'imaginais pas danser ici à court terme. Je suis vraiment heureux, je me pince encore, explique celui qui offrira ses premières performances avec le Cirque du Soleil. Je suis arrivé ce matin et je trouve ça très impressionnant, se réjouit pour sa part Maude Arsenault, acrobate diplômée de l'École nationale de cirque de Montréal depuis 3 ans et qui a notamment travaillé pour le Cirque Éloise. C'est une petite médaille sur le cœur pour elle de se joindre au Cirque du Soleil. Travailler sur Beau Dommage évoque chez elle des souvenirs d'enfance. Jouer à l'extérieur comportera son lot de surprises. Il peut y avoir de très belles surprises comme un beau coucher de soleil, mais tu peux aussi avoir des gros vents sur du fleuve ou de la pluie, explique le metteur en scène Jean-Guy Legault. S'il y a trop de vent un soir, on pourrait devoir annuler des numéros qui sont trop en hauteur et compenser avec d'autres. Ce dernier apprécie le potentiel qu'offrent les lieux. Il y a une atmosphère créée naturellement par l'environnement, par le fait d'être sur le bord du fleuve dans un décor magnifique. On est déjà dans un lieu qui propose quelque chose aux spectateurs, qui met le public dans un univers auquel il n'est pas habitué. Tu as l'impression d'être dans un amphithéâtre, mais tu as l'impression surtout d'être dans une espèce de salle d'opéra en extérieur sur le bord du fleuve. Les répétitions débutaient lundi dernier après-midi. L'équipe aura d'ici la première représentation le 15 juillet, des journées très chargées, soit de 9h à 11h le soir, 9h le matin, en plus de la préparation le soir pour le lendemain. La vente des billets se déroule toujours très bien. 50% des billets ont été vendus, donc c'est peut-être la chance pour vous de mettre la main sur ces billets-là. Je vous le répète, le spectacle Le Monde est fou est présenté du 15 juillet au 15 août.
Homme canon, cœur à la flotte, belle gitane aux mains de soie, disparu dans la cohorte. Que ferais-je, ma belle, sans toi? Rideau rouge comme seul décor, une arène sans décorum. Il faut manier les efforts, petit homme, chapeau de forme. Unijambiste aux aguets, grand guignol dépossédé, femme de joie qui se dévait d'un si joli décolleté. Piste pleine d'infortuné. Le cirque de rêve a dérapé sous la gouverne des oubliés.
La musique d'Yves Desrosiers, c'était Circus sur les ondes du kiosque magazine du Canal M. Et parlant de cirque, justement, eh bien, c'est depuis hier que Montréal est complètement cirque, du 2 au 12 juillet. Et rapidement, j'ai quelques petites activités pour vous proposer. Alors, c'est dans cette période-là que cette sixième édition, en fait, va se dérouler. D'abord et avant tout, il y a Ruelle, qui est du théâtre dans ses musiques, qui se côtoieront sur la scène de l'Usine C dans cette production. Il y a la chanteuse Marie-Hélène Thibert également, qui prendra part au volet musical du spectacle, mais sera aussi de la partie pour quelques acrobaties. C'est à noter que le spectacle est destiné à un auditoire de plus de 15 ans et ce sera du 6 au 9 juillet à l'Usine C. Il y a également la machine de cirque qui est composée de 5 Québécois, 4 acrobates et 4 acrobates. C'est pas facile ça ce matin. Et il y a aussi un homme orchestre dans tout ça qui redoubleront d'efforts pour en mettre plein la vue et faire rire grâce à une curieuse machine qui regroupe différents accessoires de cirque et ça c'est du 8 au 12 juillet à la TAU. Il y a également l'expérience qui s'appelle Warm. Alors si vous voulez vivre l'expérience totale, ce spectacle convie ses spectateurs dans une salle qui sera chauffée dans la température atteindra 45 degrés Celsius. Mm-hmm. Pour vivre l'immersion, on dit que shorts et camisoles sont fortement conseillés. Oui. C'est du 4 au 7 juillet à l'Espace Go. Il y a également la pièce Beyond, qui est présentée par la compagnie australienne Circa, qui est connue pour des créations sérieuses, qui donne aussi dans le burlesque et l'excentricité avec un spectacle qui réunit 7 artistes à la force herculéenne. Et c'est un spectacle qui a déjà fait ses preuves d'ailleurs au Royaume-Uni. C'est déjà présenté à la TAU du 1er au 5 juillet. Et finalement, du 7 au 10 juillet au Théâtre de Quatsou, c'est le spectacle Entre deux eaux qui offre un coup d'œil sur l'envers du décor de la vie d'acrobate par l'entremise d'une conversation entre trois amis. Alors je pense que pour ceux qui aimaient le cirque, il y a plusieurs activités pour vous à partir depuis hier, et ça, c'est jusqu'au 12 juillet. On se déplace maintenant à Madrid. Alors, okay. Deux sujets plutôt qu'un ce matin. Mm-hmm. On s'en va à Madrid, en fait, pour parler de l'artiste-peintre Tania Morant, qui est installée à Québec depuis déjà plusieurs années, mais qui a aussi un pied à terre à Madrid. Alors, depuis un an, c'est là qu'elle expose, en fait, dans une galerie pendant tout le mois de juin, ses œuvres, un hybride entre la peinture, le dessin et la photographie, qui ont littéralement séduit le public espagnol. C'est dans le journal de Québec que ça a été publié. C'était le 27 juin dernier. C'est écrit par Sandra Godin. Alors, le contact avec la galerie Brita Pins en plein cœur de Madrid s'est fait il y a environ un an, et quand il y a soumis ses œuvres en janvier, on lui a tout de suite programmé une exposition, et ce, sans hésiter. Alors, je pense que c'est un concours de circonstances, c'est comme ça que Mme Morant en parle, mais depuis son appartement là-bas, depuis qu'elle a son appartement là-bas plutôt, elle s'est installée avec sa famille. Elle a un contact grâce à un artiste de Québec qui s'appelle Georgia Volpe, qui a déjà explosé là-bas également, et l'artiste qui habite à Québec a préalablement fait 4 mois de recherche et de production pour sa nouvelle série Paseando entre la Gretias, alors vous pardonnerez mon espagnol, ça signifie balade entre les fissures. Alors Tania Morant, qui se démarque assurément par sa technique, elle fait des séries de collages avec des photographies qu'elle prend des villes, qu'elle visite, et elle les retravaille avec de la gouache et de l'encre. Alors ça donne un résultat très sympathique. Et évidemment, elle a transposé un peu de Québec dans son exposition là-bas avec des photographies de la ville. Et bon, Tania Morant s'intéresse à la photo depuis toujours, mais elle ne l'a intégrée que très récemment dans ses ouvrages, semble-t-il. Elle prend ses propres clichés lors des balades à vélo, et elle a pris l'habitude de passer beaucoup de temps sur les coins de rue en photographiant les passants à une échelle telle qu'ils seront petits dans la grande taille de l'image. Alors la ville qui a toujours été quelque chose de très important dans son imagerie, elle a beaucoup photographié les rues de Québec, de Montréal et la côte est des États-Unis. Semble-t-il qu'elle y allait très souvent, mais l'artiste affirme qu'elle vivra à Madrid si elle pouvait, pour le restant de ses jours, évidemment, précisant que la ville est très riche culturellement, et non seulement pour l'architecture qui est très différente de Québec, mais aussi pour la richesse de la scène des arts visuels. Il y a beaucoup de musées avec des collections incroyables comme le Prado, la Reina Sofia également et le Thyssen. Tania Morant et sa famille qui reviennent à Québec le 23 juillet et promet qu'il y aura quelques images de Madrid dans ses futures compositions. Et il faut dire que ce qu'elle fait, c'est vraiment très sympathique. Ça mélange plusieurs styles, mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, pas juste les Espagnols.
Le théâtre de la Botte Trouée propose des courtes formes théâtrales pour les jeunes dans les ruelles de l'arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve tout l'été. Chaque fois, un des personnages issus des créations originales de la compagnie viendra, à sa façon, y partager un peu de son univers fantastique. Le point culminant de cette semaine d'aventure sera la présentation d'une des pièces du théâtre de la Botte Trouée au cœur du parc avoisinant. Par exemple, samedi à 10h, ce sera À travers les cendres au parc Hochelaga. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site théâtredelabottetrouée.com. Ça, c'est jusqu'au 22 août.
Je vous parle ce matin aussi de Billy Joel, qui a établi le nouveau record du plus grand nombre de performances données par un artiste solo au Madison Square Garden de New York, en y offrant mercredi son 65e concert, doublant du même coup Elton John. Le Piano Man a animé la foule de 20 000 personnes durant plus de 2 heures à New York, et Billy Joel qui a remercié la foule d'avoir rendu possible l'exploit de jouer 65 fois au Madison Square Garden, et ça de façon tout à fait tout seul, en fait, seulement lui sur scène. Le chanteur de 66 ans né dans le Bronx donne un concert par mois à ce stade depuis l'an passé, et j'ai l'impression qu'il pourrait dépasser Elton John, qui en est à son 64e performance déjà.
Petite activité, le fun à faire en famille. En grande primeur cette année, le volet familial est ajouté à l'événement culturel Les Week-ends du Monde. Ainsi, de 14h à 18h, des stations de maquillage pour enfants, des spectacles, des parades, des jeux d'eau et une foule d'autres activités sont organisées pour les jeunes. Puis, la fête continue alors que la programmation propose aux Montréalais de toutes origines de célébrer leurs traditions vers les découvertes culinaires. Je crois que c'est ton article, hein, la brève que je viens de lire. Est-ce que ça se peut? C'est au parc Jean Drapeau du 4... Non, c'est pas ça
non,
du tout.
Non, c'est pas ça du
bon,
tout.
Bon, alors, c'est une autre activité à faire au parc Jean Drapeau.
C'est plus proche de chez nous, par exemple, parce que moi, je parlais de Québec.
Ah, ben c'est ça. Voilà, c'est le 4, 5, 11, 12 juillet prochain et c'est gratuit de 14h à 11h le soir.
Et des bonnes nouvelles pour les fans aussi des Trois Accords et des Cowboys Fringants. Eh bien, on sait déjà qu'il y a un album solo par le chanteur des Trois Accords qui est paru il y a quelques semaines, qui s'appelle Simon Ier. Mais on sait déjà aussi qu'ils travaillent sur leur prochain album et ça devrait paraître à l'automne prochain. Il y a aussi les Cowboys Fringants qui travaillent d'ailleurs avec les mêmes collaborateurs pour la même date de sortie, donc cet automne. Deux groupes chéris des Québécois qui sortiront un album en même temps. Ça ne peut être qu'un été chaud côté musical.
Les rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal est en plein air. On les aime, les documentaires, et on les aime s'ils sont gratuits en plein air. C'est donc une note parfaite pour le concept des rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui revient cette année. Que ce soit au parc Bal, au parc Laurier, au marché des possibles ou ailleurs, 7 lieux au total, vous pourriez voir une sélection de documentaires de thèmes variés, dont 20 000 jours sur Terre. Ce sera... Ces rendez-vous sont du 14 juillet au 1er septembre. Et c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie Jean-Philippe Vachon à l'animation. Je m'appelle Charles Roy. Merci à Rémi Hermoso à la régie. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission. On se retrouve vendredi prochain pour une autre édition de Kiosque Magazine. Prenez soin de vous. À la prochaine.
Bonne journée.